Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'était il y a 100 ans, le 24 décembre 1921 exactement, un émetteur civil, une station de radiodiffusion s'installe sur la Tour Eiffel à Paris. Radio Tour Eiffel est née et ses premiers auditeurs avec qui l'écoutent sur des postes à Galène. 60 ans plus tard, c'est la libération des ondes sur la bande FM. Et cette semaine, c'est la fête de la radio, des événements toute la semaine, radiophonique et ici toute la journée à la Maison de la Radio. Et de la musique à suivre sur la chaîne de la fête de la radio. Bonjour Olivier Mestre. Franck Olivier Mestre, président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, l'origine de cet événement, un CSA d'ailleurs qu'on présente souvent comme le gendarme de l'audiovisuel, c'est une expression qui vous convient ?
Bonjour Jean-Baptiste Urbain, merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne. Non, je vais être franc avec vous, c'est une expression dans laquelle je ne me retrouve pas totalement, même si j'ai énormément de respect pour la gendarmerie, bien évidemment, surtout quand je conduis ma voiture. Mais non, la régulation, c'est pas uniquement une action coercitive, loin de là. La régulation, elle a des dimensions multiples. C'est une régulation qui est à la fois technique, parce qu'on gère un parc de fréquences très important. C'est nous qui autorisons les éditeurs à émettre en radio ou à diffuser en télévision. Elle a une dimension culturelle très importante, puisque on est en charge des obligations qui pèsent sur les acteurs, les quotas de chansons françaises pour la radio, les obligations de financement de la production cinématographique ou audiovisuelle pour la télévision. Elle a une dimension démocratique très importante, cette régulation, puisqu'on est en charge du pluralisme, des courants de pensée et d'opinion sur les chaînes de radio et de télévision. Et puis elle a une dimension sociétale très, très importante, puisque le législateur a toujours considéré depuis l'origine que les médias avaient des responsabilités à l'égard de la société. Et donc cette régulation, elle est très souvent partenariale avec les acteurs. Elle est beaucoup dans le dialogue avec les acteurs. Et l'activité coercitive, elle existe, bien évidemment, puisqu'on est, le législateur nous a donné des outils pour faire respecter les obligations qui pèsent sur les éditeurs. Mais c'est pas l'activité centrale. Donc, je trouve l'expression un peu réductrice. Voilà.
Pas un gendarme, mais un régulateur. On a bien compris. Il y a en France, Roch-Olivier Mestre, plus de 1000 stations, 8000 fréquences, 40 millions d'auditeurs. Chacun a ses habitudes. Vous avez, j'imagine, un devoir de réserve. Je ne vais pas vous demander quelles sont vos radios préférées. On espère en faire partie. En tout cas, c'est nous que vous avez choisi ce matin pour lancer cette journée. Merci beaucoup. En revanche, quels sont comme ça, spontanément, quelques-uns des souvenirs de moments importants, forts de radio qui vous viennent en tête?
Oh, écoutez, il y en a plusieurs. Pour moi, la radio, elle est liée à mon premier transistor, pour employer une expression que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et notamment mes années d'adolescence. Il y a un événement qui m'a beaucoup marqué à la radio, c'est les événements de mai 68. J'ai vraiment un souvenir extrêmement fort des comptes rendus nocturnes, des manifestations la nuit, les barricades de mai 68, avec une intonation particulièrement émouvante sur la radio, parce que c'était la voix avec le compte rendu en direct. C'était la nuit, on était sur les radios périphériques, c'était beaucoup beaucoup Europe 1, pardon de le dire sur le service public aujourd'hui, mais c'était le cas. On écoutait les radios périphériques souvent à l'époque, hein, parce qu'on considérait que c'était une liberté de ton et d'expression plus forte. Et il y avait une intensité dramatique, je dirais, extrêmement forte. Donc c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué.
D'ailleurs, c'est un événement où la radio est devenue actrice, a joué un rôle dans les événements.
Exactement, la radio est un espace de liberté. Elle a toujours été caractérisée par cet élément-là. Pour évoquer des périodes plus sombres de notre histoire, on sait ce que la radio a occupé dans l'espace des Français pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
On a tous des souvenirs de moments de radio, d'émissions, d'informations qu'on a apprises dans le poste, de musique qu'on a découverte dans sa voiture. Il y a ce rapport-là, très intime, presque magique avec ce média.
Il y a une relation éminemment personnelle à la radio, une relation sentimentale effectivement à la voix. La radio occupe notre espace personnel, on se lève avec elle, on s'endort avec elle, on se promène avec elle. C'est un média de fidélité. Il y a des voix auxquelles on est très attaché. Quand une voix quitte la radio, je pense à Pierre Veil qui a quitté les antennes il y a très peu de temps.
Grand journaliste de Radio France.
Tout d'un coup, on se sent presque orphelin. Il y a une relation très personnelle qui se fait. Oui, c'est le média du cœur. C'est un média pour lequel il y a une dimension sentimentale, je pense.
Et parfois, on déjeune avec la radio. Hier soir, pour fêter la radio, la Tour Eiffel s'est illuminée. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux toutes les photos. La Tour de Monsieur Eiffel, c'est une chanson de Jean Nohain interprétée par une grande voix de la radio. Est-ce que vous allez la reconnaître ?
En 1880, au temps des crinolines, lines, les belles avaient le temps d'être tendres et câlines, lines, et les messieurs, pour leur plaire, ne savaient vraiment que faire. Alors, Monsieur Eiffel, un jour, pour sa belle, a voulu faire une tour. Ça, vous voyez, mademoiselle, c'est le plan de ma tour Eiffel. Elle aura 300 mètres, bah où comptez-vous la mettre? Du côté du pont de Javel, à Montmartre ou bien à Grenelle. La petite a dit, merci beaucoup, vous êtes gentil, mettez-la n'importe où. À Montmartre, au pont de Saint-Cloud, au Champ de Mars, à Montparnasse. Ah mais je vous préviens, il y aura plus moyen, après ça, de la bouger de là. Pendant longtemps, Monsieur Eiffel passa des nuits blanches, blanches. Il avait, comme on dit, beaucoup de pain sur la planche, planche. Quand sa tour fut terminée, il dit à sa dulcinée, je suis content, très content, venez, levez votre petit nez. Ça, vous croyez, mademoiselle, ça s'appelle la tour Eiffel. Elle est un peu pointue, mais on s'y habitue. Voulez-vous que je vous emmène faire, faire le tour du propriétaire? La petite a dit, merci beaucoup, elle est vraiment un peu haute pour mon goût. Tout se fera dû coûter cher, ce n'est pas une bonne affaire. Oh, oh, bien trop cher, et la prochaine fois, croyez-moi, faites-la donc en bois. Et puis, a dit la demoiselle, mais à quoi sert votre tour, Eiffel? Montez donc au troisième, vous le verrez vous-même. Et depuis, toutes les demoiselles sont montées sur la tour Eiffel. Combien d'entre elles, dans l'ascenseur, ont trouvé l'âme sœur? L'une de miel dans le septième ciel, là-haut les cœurs ont des ailes. Et l'amour tout en haut de la tour a chanté, vive Monsieur Eiffel!
Alors, cette voix, c'était Lucien Jeunesse, grande voix de la radio, longtemps, très longtemps, animateur du jeu des 1000 francs avant l'euro. Une chanson de 1947. Jean Nohain, c'est les 100 ans de ses premières émissions civiles de la Tour Eiffel à Paris. Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, est notre invité. Pourquoi fêter la radio cette semaine ?
Oh bah écoutez, 100 ans, ça se fête. C'est pas tous les jours qu'on a 100 ans, je dirais. Et puis, vous avez évoqué les 40 ans de la libération de la bande FM. Ça a été un mouvement extraordinaire pour la société française. On oublie qu'avant cette période-là, il y avait bien sûr le service public, puisqu'il y avait un monopole d'État sur la radio et sur la télévision. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les radios périphériques, donc des radios qui émettaient à la périphérie de notre territoire, puisqu'elles n'étaient pas autorisées à émettre en France. Et puis, à l'approche des années 80, il y a eu ce phénomène des radios pirates qui ont bercé notre jeunesse. Et donc, l'ouverture de la bande FM, c'est une libération au sens plein du terme. C'est une libération des ondes, bien évidemment, mais c'est aussi l'arrivée de nouvelles voix, d'un nouveau ton. C'est la liberté d'expression qui se manifeste de la façon la plus forte sur les ondes. C'est des nouveaux formats, c'est la musique, parce que la musique, elle est très très présente sur la radio depuis l'origine. Et donc, voilà, la radio méritait une fête, je crois. C'est vraiment des dates importantes dans notre histoire, pas seulement dans l'histoire des médias, dans l'histoire de notre société.
Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, aujourd'hui? Des tables rondes, des débats avec tout le monde. Ça se passe à la Maison de la Radio, mais il y a des radios associatives, des radios privées commerciales.
Voilà, c'est une manifestation qu'on a organisée de façon totalement décentralisée. Donc chaque radio, il y a plus de 1000 radios, vous l'avez rappelé, en métropole et outre-mer, des radios associatives, des radios privées, des radios de service public, bien évidemment, des radios locales, des radios régionales, des radios nationales. Donc chacune a souhaité organiser son programme. En rappelant les grandes voix, vous venez de réévoquer celle de Lucien Jonas, qui a tenu une place très importante dans notre mémoire collective. Il y aura des débats, il y aura des opérations portes ouvertes, il y a des opérations en liaison avec l'éducation nationale et le CLEMI que je remercie qui s'associe à cette opération. Il y aura des concerts, y compris ici à Radio France. Et cet après-midi, une grande émission, la radio fait son show. Sur vos antennes ici du service public où pendant 3 heures on va parler de la radio, des enjeux de la radio aujourd'hui, la force de son histoire, mais aussi comment ce média se projette dans son avenir.
Alors justement l'avenir, je précise d'ailleurs qu'on peut voir aussi sur la chaîne YouTube de la fête de la radio toute cette journée avec cette antenne d'une journée. L'avenir, est-ce qu'il est si heureux que ça? Parce qu'on parle d'une baisse d'audience, on l'a vu l'hiver dernier, moins de 2 millions d'auditeurs en un an. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est structurel avec les nouveaux modes de consommation? Ou est-ce que c'est conjoncturel à cause de la pandémie?
Oh, écoutez, je connais bien la tendance très française à regarder le verre à moitié vide. Il y a ce pessimisme français qui nous dévore constamment. Mais je crois qu'il faut regarder d'abord la force du média. C'est un média extraordinairement puissant. C'est quand même 40 millions de Français qui nous écoutent tous les jours, 3 Français sur 4. C'est 2h45 d'écoute moyenne. C'est, je le disais tout à l'heure, plus de 1000 radios en métropole et outre-mer. Donc c'est un média dans lequel les Français ont confiance. C'est le média dans lequel les Français ont le plus confiance. Comme on dit dans les sondages, on croit ce qu'on entend à la radio. Donc ça, c'est un atout et un capital absolument extraordinaire. Et c'est un média qui a toujours su s'adapter en reposant sur deux mouvements. D'un côté, s'associer toujours aux technologies les plus modernes. Les émissions de radio au début des années 20, c'était une technologie tout à fait étonnante. La libération de la bande FM, c'est une autre étape technologique. Aujourd'hui, on en franchit d'autres. Bien évidemment, la radio numérique terrestre, qui est un mouvement sur lequel on a mis le booster, pour en parler en bon français. C'est un chantier prioritaire pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc ce qu'on appelle le DAB+. Qui offre à l'auditeur une qualité de son supérieure, un grand confort en mobilité. Donc ça, c'est un élément de l'avenir de la radio. C'est aussi les web radios, donc l'Internet. Donc les technologies les plus modernes. Et puis en même temps, savoir transformer les formats pour s'adapter aux attentes, aux besoins des auditeurs. Et on a une illustration formidable avec le podcast, qu'il soit une radio de rattrapage ou qu'il soit natif avec des créations spécifiques pour les auditeurs, ce qui nous permet de remettre la voix au centre. Donc là, moi j'ai vraiment confiance. Pour moi, la radio restera un média d'avenir et on voit que les audiences peuvent être au rendez-vous. Le service public est une bonne illustration, même si la crise, on le sait, a eu des effets lourds pour la radio. Donc, tout à fait confiance dans l'avenir de ce média.
Alors, Olivier Mestre, je voudrais qu'on s'arrête juste sur ce DAB+, dont vous avez parlé. Et notamment, on est sur France Musique. C'est aussi plus d'informations sur ce qu'on entend. Bon, pour avoir, par exemple, des pochettes.
Voilà, le DAB+, c'est une qualité de son supérieure. C'est le son numérique. C'est un confort supplémentaire en mobilité puisque le signal suit automatiquement. Donc quand on fait Paris, Lyon, Marseille, on n'a pas besoin de chercher la fréquence de France Info
ou
de France Musique. Elle suit automatiquement. Et effectivement, c'est des informations supplémentaires puisque les postes permettent d'avoir la pochette du disque qu'on est en train d'entendre ou d'avoir le nom du journaliste qui est en train d'animer l'émission. J'ajoute que toutes les voitures qui sortent aujourd'hui sont équipées d'autoradio.
Oui, donc on parle au futur, mais en fait c'est du présent. Hein.
Voilà, exactement. Il y a déjà 30% de la population française qui est éligible au DAB+, donc les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Rennes. Notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2022, 50% de la population française soit déjà éligible au DAB+. Donc c'est un mouvement qui est aujourd'hui lancé.
Et si vous nous écoutez en DAB+, à 8h46 sur France Musique, vous allez voir apparaître la pochette de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigée par Mikko Franck, c'est Debussy. Extrait du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck, le choix de notre invité ce matin, Roch-Olivier Maistre, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'initiative de cette fête de la radio. C'est vous qui avez choisi cette musique, Roch-Olivier Maistre. Pourquoi ?
Écoutez, c'est toujours cornélien qu'on vous demande qu'est-ce que vous emmèneriez sur votre île déserte. Je ne sais pas si j'aurais de quoi écouter la radio, d'ailleurs. Écoutez, moi, ce qui me touche vraiment beaucoup, c'est bien évidemment. D'abord, je suis venu à la musique par cette période-là. C'est en réalité Gabriel Fauré qui a été probablement mes premières émotions en matière musicale. Et j'aime beaucoup cette période des grands mélodistes français de la Belle Époque. Donc cette période absolument charnière de notre histoire, d'un monde qui va s'effondrer dans la tragédie de la guerre de 14. Que Proust a si bien écrit dans la recherche. Et je trouve il y a à la fois ce côté merveilleux de ces grands mélodistes, Fauré, Debussy, Saint-Saëns, Ravel, et en même temps ce monde nouveau qui se crée. C'est une période extraordinairement foisonnante dans notre littérature. C'est l'émergence de nouveaux talents en peinture. Et je trouve que la musique a su traduire ça de façon extraordinaire. Et donc, il y a quelque chose à la fois de liquide, de fluide. Et puis, il y a une ouverture sur un nouveau monde. Et ça me touche très profondément.
Roch-Olivier Maistre, on parle beaucoup de la concurrence des plateformes pour la télévision, mais pour la musique, à la radio, il y a aussi l'essor de ces plateformes d'écoute. On va citer plusieurs, car c'est sa veille, Deezer, Spotify, Apple Music. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour la place de la musique à la radio, ou est-ce qu'elle aura toujours sa place ces prochaines années? On a vu des audiences baisser, alors je vais revenir aux audiences qui baissent, mais pour les radios musicales commerciales.
Oui, c'est un motif d'attention, bien évidemment, parce que la même problématique se pose pour la télévision. On a des règles qui s'imposent aux médias historiques. on le sait, liée à notre politique culturelle. Donc il y a des obligations particulières qui pèsent sur la télévision pour le financement de la production, je l'ai évoqué. Il y a une politique particulière en faveur de la chanson française qui pèse sur les acteurs historiques, avec la politique des quotas. Et on a des acteurs nouveaux entrants qui, effectivement, échappent aujourd'hui à ces règles. Alors, pour la télévision, c'est en cours de changement, avec la directive européenne Services Médias Audiovisuels et un décret qui va sortir bientôt, qui va imposer à ces grands acteurs nouveaux des obligations de financement de la production cinématographique et audiovisuelle. C'est pas le cas pour la musique. Et je pense que c'est une question. C'est une question qui préoccupe effectivement les radios musicales. Non sans raison. Nous avions suggéré nous-mêmes que dans le cadre du projet de loi relatif à l'audiovisuel qui vient devant le Parlement, cette question puisse être traitée. Ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il faudra se poser la question. Il faut pas qu'il y ait d'asymétrie de situation. Parce que ces plateformes ont effectivement un impact très important sur l'écoute. Même s'il y a une spécificité du média radio par rapport à ces plateformes. Mais en tout cas, il faut être attentif à ce que tout le monde souhaite être traité sur un pied d'égalité. C'est un motif d'attention pour le Conseil.
Est-ce que c'est le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la pluralité, la variété des musiques qui peuvent être diffusées sur tout le territoire? 1000 stations françaises, on le disait, mais quand on se promène en France, on entend moins de musique traditionnelle, de musique folklorique qu'il y a quelques années. Et puis nous, la musique classique, en gros, il y a deux radios en France qui diffusent essentiellement de la musique classique aujourd'hui.
Alors déjà deux radios et pas n'importe lesquelles. Hein. France Musique, c'est beaucoup d'auditeurs et avec une évolution positive de ses audiences. Radio Classique, c'est aussi beaucoup d'auditeurs. Je ne vais pas me prononcer sur la concurrence entre les deux, mais ça fait deux acteurs qui sont très présents sur le paysage. Alors, la loi qu'on met en œuvre, c'est une loi de liberté, fondamentalement. L'article 1er de cette loi rappelle que la communication est libre, donc elle consacre la liberté éditoriale des chaînes. C'est pas le CSA qui fait les programmes de radio ni les programmes de télévision, même si certains le pensent et nous saisissent parfois en ce sens.
Vous n'avez pas demandé à Énergie de diffuser de l'accordéon ?
Non, même si j'aime beaucoup l'accordéon. Et on n'en entend pas suffisamment. Mais voilà, donc non, c'est pas nous qui faisons les programmes. Alors sur le service public, il y a un cahier des charges qui impose une série d'obligations. Mais voilà, on a déjà suffisamment à faire pour ne pas faire se substituer aux programmateurs.
On parlait du DAB+. Aujourd'hui, beaucoup des gens qui nous écoutent aujourd'hui nous écoutent en FM avec la diffusion hertzienne, mais de plus en plus aussi avec leur téléphone, avec leurs ordinateurs. Il y a cette application Radio Player qui a été lancée, qui regroupe toutes les radios pour être écoutées sur une seule application. Est-ce qu'à terme, la diffusion hertzienne sera menacée et condamnée? En plus, ça coûte très cher, la diffusion hertzienne.
Vous savez, quand on regarde l'histoire de la radio, même avec la libération de la bande FM, les grandes ondes ont perduré pendant de très nombreuses années. Elles existent encore, les grandes ondes. Donc non, la double diffusion va exister encore pendant de longues années. Donc la bande FM a encore de grandes années devant elle. Quand le DAB+ aura connu vraiment un développement très important en termes d'audience, d'écoute, il y aura certainement un moment de bascule qui se fera, mais ce moment n'est pas devant nous aujourd'hui. Et je crois que c'est l'une des chances pour la radio de demain, c'est d'avoir plusieurs vecteurs de diffusion et par ce biais-là, voilà, de toucher une diversité d'auditeurs, donc la FM, le DAB+, Internet également, des applications qui se développent de plus en plus, et le service public est de ce point de vue-là tout à fait exemplaire. Radio France est très très en pointe dans sa politique numérique, mais le service public n'est pas le seul. Les radios privées sont engagées dans ce mouvement avec ces phénomènes d'application qu'on retrouve également dans la télévision aujourd'hui, où les offres se font beaucoup par le biais de ces applications.
On fête la radio toute la semaine à l'initiative du CSA, Roch Olivier Maistre. On l'a dit, on sent une ferveur de toutes les radios, quelles qu'elles soient, pour cet événement. Il y a aussi un attachement très fort des auditeurs pour leur radio. Est-ce que c'est pas une exception un peu française, d'ailleurs, quand on va à l'étranger, on se rend compte que la radio, elle n'a pas forcément la même place sur d'autres continents ou dans d'autres pays ?
Écoutez, je crois que nous avons un lien très, très particulier, un lien individuel. Ça fait partie de notre culture, de la façon dont, dont ce média s'est développé dans notre pays. On parle de ce réseau de plus de 1000 radios. Moi, c'est le côté que je trouve vraiment formidable dans, dans ce média. Il y a une forme d'engagement, j'allais presque dire une forme de militantisme dans la radio, au sens vraiment de l'engagement personnel des acteurs qui font la radio, qui est extrêmement, extrêmement attachant. L'esprit pionnier de la bande FM, il y a 40 ans, il demeure aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Quand vous regardez notre paysage, les radios associatives, c'est pratiquement 600 radios en France, elles sont toujours là, elles ont toujours le même esprit, c'est des radios de proximité, d'engagement de proximité, d'engagement local. C'est vraiment très particulier à notre territoire.
Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans et des autres. Vous avez choisi Kind of Blue, Blue in Green pour se quitter, Roch-Olivier Bestre.
Écoutez, moi je trouve déjà le titre Blue in Green, ça dit tout. Donc il y a le blue du jazz, les intermittences de nos âmes. Et puis il y a le vert, le vert de l'espérance. Donc c'est un morceau que j'aime beaucoup parce que d'abord c'est trois artistes d'exception, hein, Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans. Je suis un modeste pianiste amateur, mais comme dit la chanson, j'aurais aimé jouer du piano comme Bill Evans, quoi. C'est un morceau qui est à la fois très très émouvant, presque bouleversant avec Miles Davis en particulier, mais qui en même temps a quelque chose de positif, d'ouvert. Et voilà, c'est un peu le regard que j'ai aussi sur la vie, d'avoir une approche sentimentale d'un côté, mais en même temps toujours positive.
Et bien, c'est sur ces notes d'espoir sur la trompette de Miles Davis qu'on va se quitter. Et qu'on va fêter la radio avec vous toute cette journée et toute cette semaine sur Radio France et à la Maison de la Radio et de la Musique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Urbain. Merci
demain,
beaucoup de votre invitation.
Notre invité sera demain Benoît Jacquot pour son nouveau film, le metteur en scène de cinéma et d'opéra également. Merci à Alex Billard, à Marion Guillemet et à Yacine Bouzard. Et voici sur ces quelques notes Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jean-Baptiste. Nous, on ne fête pas encore les 100 ans de la radio, enfin on les fête avec vous, mais bientôt les 70 ans d'un ensemble, figurez-vous, le Concertus Musicus Wien qui va ouvrir cette émission. 70 ans dans 2 ans, donc on en reparlera bien évidemment, et c'est Haydn et Schubert.
On garde les bougies, à demain.
Oui, à demain. À demain.